Bonjour à vous, Nouvelle Vie. Je suis content d'être avec vous ce matin. Je suis content d'être de retour à mon port de la tâche. Je suis particulièrement aussi heureux d'aborder ce thème de cette nouvelle série, en fait, ce premier message qui se base justement, comme vous avez vu dans la vidéo, sur cette révélation de Dieu et tout cela. Lumière sur Dieu, un éclairage sur Dieu. Merci à Pasteur Claude de sa confiance aussi. C'est un thème qui, à mon avis, est réellement important pour notre époque. On vit dans une ère, vous avez remarqué, si vous vous tenez un petit peu au courant au travers des journaux télévisés, des journaux et tout ça, qu'on est dans une ère de désinformation incroyable, en fait, plus que jamais. Parfois, on est à la recherche de la vérité, qui dit vrai et tout cela. Et je pense que les sociologues vont avoir pour quelques décennies à analyser cette époque. Pas sûr qu'on va être là pour avoir le résultat de toutes leurs recherches, leurs études. Et Dieu a mauvaise presse de ce temps-ci. Et remarquez que l'humanité entière, elle est divisée. D'un côté, il y a près de 7 milliards d'êtres humains qui professent être croyants de toute allégeance. On ne peut pas balayer du revers de la main en disant que tous ces gens sont des illuminés. Il y a des gens qui croient sur cette terre, 7 milliards. Et de l'autre côté, il y a, surtout en Occident, en Europe, en Amérique, la sécularisation de la société qu'on appelle, c'est-à-dire ce monde séculier qui est marqué par une remise en question de la religion, qui blâme la montée de l'athéisme et tout ça. Je vais y revenir dans quelques instants. Et ces gens qui, évidemment, blâment beaucoup la religion à cause des dérives, des luttes, de l'extrémisme, de tout ce qu'on peut voir, on peut imaginer. Et ça, tout cela soulève beaucoup de questions. Comment démêler tout cela? Comment s'y retrouver comme croyant? Comment ne pas être confus, même torturé par tout ce qui se passe? Et c'est un peu tout ce qu'on vit. Je le vis à l'occasion, je regarde ce qui se passe dans les journaux et tout ça, et je me dis, wow, c'est pas évident d'être croyant dans la vie moderne, dans le sens de notre relation avec les autres, avec cette société, avec ce monde qui nous entoure. Vous savez que Blaise Pascal, le grand penseur chrétien, le grand penseur français, a observé qu'il y avait dans ce monde deux catégories de gens. Il y a ceux qui cherchent, quand ils regardent tout ce qui se passe autour, ils cherchent des réponses parce qu'ils se posent des questions. Ils cherchent un sens à la vie, ils cherchent à comprendre ce qui se passe autour d'eux, ils ne vivent pas en vase clos. Tout ce qui se passe autour dans ce monde les interpelle, les amène à s'interroger. Mais l'autre catégorie de gens, ce sont ceux qui ne cherchent pas. Ils ne cherchent pas de réponse parce qu'ils ne posent pas de questions. Et parfois, ils ne posent pas de questions parce qu'ils ont peur des réponses aussi ou des remises en question que pourraient engendrer littéralement les réponses qu'ils trouveraient. Ça remet en question sa vie, nos mœurs, nos valeurs et tout cela. Et ce qui est dommage dans la vie moderne un petit peu, quand on observe cette société autour de nous, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui littéralement se bouchent les oreilles, se ferment les yeux, s'anesthésient, ils ne veulent pas rien savoir. Vous savez, Justin fait allusion au fait que je voyage beaucoup. J'étais, il y a quelques semaines, à peine 3 semaines, à Mexico City, la capitale du Mexique. Il y a une pensée pour les Mexicains aujourd'hui parce qu'il y a des élections nationales. C'est un pays où les gens sont admirables. On est attachés. Moi, j'ai des amis maintenant là. J'y vais 2 fois par année. Par contre, il y a des élections aujourd'hui. Vous savez qu'il y a 130 politiciens qui ont été assassinés dans la dernière année parce que les cartels et tout ça veulent avoir accès au pouvoir. Et c'est pas évident dans un pays comme ça. Si vous avez eu l'occasion d'aller en vacances, vous savez comment c'est un beau pays où le peuple, c'est toujours le peuple qui subit tout ça. Mais j'ai beaucoup d'amis mexicains. J'en ai qui vont me dépasser quelques semaines dans la maison cet été. Et vous savez, vivre à Mexico, c'est un monde dans un monde. Conduire la voiture à Mexico, il y a une expression à Mexico qui s'appelle « Mexican driving », c'est-à-dire la façon qu'ont les Mexicains de conduire les voitures. C'est le chaos le plus total. D'ailleurs, je me pose toujours la question pourquoi il y a des feux de circulation, pourquoi il y a des panneaux de signalisation, parce qu'il y a personne qui les respecte. J'ai vu des automobiles couper 6 voies en perpendiculaire pour réussir à la passer, se faire un chemin comme ça. Et j'ai parfois vu le film de ma vie passer aussi en me disant « ça y est, là, c'est fait, on va avoir un accident et tout ça ». Mais tout ça pour vous dire qu'il y a une blague qui circule constamment là-bas qui est « quelle est la différence entre un Américain, un Allemand et un Mexicain dans la conduite d'une voiture et tout ça. » Puis en fait, l'image, c'est, essayez d'imaginer que la personne s'en va sur l'autoroute et que la voiture, le moteur commence à avoir des ratés et des bruits bizarres et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais l'Américain, lui, s'arrête sur le bord de la route, il prend son téléphone cellulaire, son portable, puis il appelle une dépanneuse, puis il se commande une nouvelle voiture. L'Allemand, lui, quand il voit que son moteur a des ratés, il fait des drôles de bruits comme ça, il s'arrête sur le bord de la route, il se couche en dessous de la voiture, puis il tente de rafistoler tout ça. OK? Et le Mexicain, lui, lorsqu'il entend des ratés de son moteur, c'est plus ce qu'il fait? Il augmente le volume de la radio. C'est une blague et je ne la rapporte pas parce que je me moque des Mexicains, parce que, encore une fois, j'ai beaucoup d'amis là. En fait, c'est une représentation pour moi de ce que font les gens dans la vie. Des fois, on va augmenter le volume pour refuser d'entendre ce qui pourrait nous remettre en question, ce qui pourrait nous rendre inconfortables. Et pourquoi? Parce qu'on ne veut pas nécessairement savoir la réponse. On ne se pose pas de questions parce qu'on ne veut pas savoir la réponse. Et c'est particulier, à mon avis, de notre époque. Et comme croyants, on est aussi confrontés à cela. Il y a parmi vous peut-être des gens qui vous aimez Dieu et tout ça, mais il y a des questions que vous n'osez pas vous poser parce que vous aussi, vous avez peur des réponses. Et ce n'est pas, donc, encore une fois, seulement la condition de ceux qui ne croient pas. Mais il y a plus que ça aussi. Dans les rapports avec le christianisme, on pourrait dire jusqu'à un certain point qu'il y a deux catégories de gens, encore une fois. J'ai intitulé ça « Ceux qui observent la parade et ceux qui marchent dans la parade ». Aujourd'hui, c'est la fête du Canada. Et bon, on va avoir des parades dans certaines régions du pays. Il y a ceux qui vont se placer sur le bord des rues pour regarder un petit peu passer la parade. Puis il y a ceux qui sont dedans. Oui, encore une fois, vous savez, j'ai vécu dans un petit village pas très loin d'ici, dont je vais taire le nom. Et je me souviens, ce qui m'a marqué dans ce petit village-là, c'est que c'est un village avec une rue principale. C'est-à-dire que tout se joue sur la rue centrale du village. Et au printemps, les gens sortent leurs chaises berçantes et s'assoient sur le perron et regardent passer les voitures. Donc, il y a ceux qui sont assis, qui regardent, ils commentent les voitures et la conduite des chauffeurs. Et il y a ceux qui sont assis dans leur voiture et qui composent avec la vie. Vous me suivez? En ce moment, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui me regardent et qui disent « Le pasteur, il s'en va où? Il fait quoi? » Il dit ça. Vous avez un problème un petit peu théorique. Moi, mon problème pratique, c'est qu'il faut que je livre la marchandise. Vous voyez, on a des angles différents. Donc, ceux qui regardent, discutent, philosophent, commentent, jugent, par exemple, de l'état des routes, et des voyageurs, ce qu'ils font, leurs problèmes sont théoriques. Les questions qu'ils ont sont théoriques, sont un petit peu idéologiques. Puis il y a ceux qui voyagent. Et lorsqu'on voyage, on planifie, on réfléchit à la direction à prendre, à ce qu'on doit éviter, les bouchons, la meilleure route à choisir, les décisions, les actions à poser. Dans des moments comme ça, les problèmes sont pratiques. Donc, voyez-vous qu'il y a déjà deux angles pour vivre les choses dans la vie. Et encore une fois, on voit aussi, et tout ça, vous pouvez le transposer même dans des drames. Les gens vivent des drames. Ceux qui sont dans des drames, dans des temps d'épreuve, n'ont pas le même genre de questions que ceux qui les observent au cœur du drame. Donc, c'est à la fois une métaphore de la vie. Je dirais que c'est la même chose avec Dieu. Dieu comme sujet de discussion. Existe-t-il? Ou Dieu n'existe pas? Je n'y crois pas. Versus le comment les choses se passent. Je dis souvent à la blague, quelqu'un qui tombe par-dessus bord d'un bateau, OK, et se retrouve à la mer, ne se pose pas de questions sur la qualité de l'eau. Vous d'accord avec moi? Le point de vue n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il faut que je sauve ma peau, envoyez-moi une bouée à quelqu'un, je ne veux pas sombrer, je ne veux pas me noyer littéralement. Et donc, encore une fois, c'est toujours une représentation des différents angles dans lesquels les choses se manifestent. Donc, ceux qui questionnent beaucoup parfois, c'est probablement là que naît aussi la remise en question de Dieu, l'interprétation des phénomènes qui se passent dans ce monde. On est rapide et facile à blâmer Dieu pour tout ce qui se passe sur la terre. Et, encore une fois, je reviens à cette notion que c'est probablement de ce genre de réflexion que naît un petit peu la question de l'athéisme. Vous savez ce que je crois? Et c'est sur la base de mes contacts avec les gens au fil des années. Je ne crois pas qu'on vient au monde ou qu'on est athée. Je crois qu'on le devient. En réaction à quelque chose, en réaction à la déception, en réaction à certaines injustices, en réaction à certains excès que l'on voit autour de nous, on le devient encore une fois, non pas nécessairement en réaction à Dieu lui-même, comme personne ou comme personnage, mais davantage à l'Église et tout ça. Et on est confronté à cela, c'est pas le cas dans beaucoup de pays où ils ne se questionnent pas, l'athéisme ne prend pas place, les gens ne remettent pas en question leur foi. Le problème chez eux n'est pas tant de croire ou de ne pas croire, que de savoir en quoi il croit et pourquoi il croit, en quoi il croit. Oui, c'est un peu plus complexe. Dans ce sens-là, vous devez saisir un petit peu, pour ce qui nous concerne, nous, que l'athéisme, ce n'est pas un système uniforme. Okay? Donc, quand vous entendez des gens, peut-être vous entendez vos jeunes, vos ados commencer à discuter, peut-être qu'ils sont au collège, ils ont été exposés à des profs de philosophie qui sont anti-chrétiens et tout ça, et on a l'impression que toute leur pensée, elle est vraiment, vraiment bien articulée. Vous allez voir sur la prochaine diapo, il y a trois formes d'athéisme de façon bien, bien, bien simple. Il y a l'athéisme qu'on appelle commun, l'athéisme commun. Il prend la forme d'une inconscience, d'une insouciance, d'une indifférence. Il y a plein de gens qui s'en vont dans la vie et qui ne vivent pas comme si Dieu existait. Ce n'est pas tant qu'ils s'opposent ou qu'ils ne croient pas ou qu'ils remettent en question. Ils sont juste indifférents à cette dimension-là. Ça a été mon cas pendant des années, surtout mes années d'adolescence et tout ça, où tu ne te poses pas de questions, tu es simplement indifférent. Et ça, c'est très, très répandu. C'est vraiment, voilà pourquoi on l'appelle commun, parce que c'est la plus large portion des gens qui pensent de cette façon, sans savoir qu'ils pensent de cette façon. Il y a un athéisme pur et dur, celui qu'on voit dans les journaux parfois, on voit à la télé. Il se manifeste chez ceux qui sont très, très militants et en veulent à Dieu avec cette conception d'univers que Dieu n'a pas d'affaire dans tout cela. Et qui s'acharnent, ils s'acharnent. Mais souvent, des fois, je leur dis, est-ce que tu crois que Dieu existe? Non, non, j'y crois pas. Mais si tu ne crois pas que Dieu existe, pourquoi tu t'acharnes à ce point-là à convaincre les gens qu'il n'existe pas s'il n'existe pas? Okay? Moi, je ne passerai pas une heure ce matin à vous convaincre que le Père Noël n'existe pas. Il n'existe pas. OK? Donc, si je me mets à prendre un sermon d'une heure sur voici les 36 points pourquoi le Père Noël n'existe pas, vous allez dire, mais écoute, il s'en va où avec tout ça? Mais j'ai un peu la même impression. S'il n'existe pas, relax, détends-toi, il n'existe pas. S'il n'existe pas pour toi, mais ne passe pas ta vie en croisade pour tenter de convaincre tout le monde. Tu as ta conviction personnelle, et s'il n'existe pas, il n'existe pas. Mais il y a une troisième catégorie d'athée ou d'athéisme qu'on appelle imaginaire. En fait, il se caractérise chez ceux qui ne croient pas en un Dieu, mais qui définissent une entité divine en termes de principes de conscience élective, conscience collective, c'est-à-dire, et d'énergie un peu floue et tout ça. Vous avez sûrement une belle sœur, une tante, une cousine. Pourquoi je dis au féminin? Ça peut être un cousin, un oncle. Je pense que les femmes sont plus intéressées par toutes ces questions-là. Où vous avez l'impression que lorsqu'ils vous confrontent et tout ça, que c'est encore une fois une pensée très, très articulée. La plupart des gens ne s'interrogent pas, puis laissez-moi vous dire quelque chose, ne s'interrogent pas comme nous on peut s'interroger comme croyants. Toutes les fois qu'on a questionné la Bible, toutes les fois qu'on a fouillé, réfléchi, discuté, il y a quelque chose qu'on pousse qui fait partie de ça, mais c'est pas uniforme dans tout ça, parce que, encore une fois, c'est pas tous les gens qui cherchent à comprendre, cherchent à définir. Donc, le problème à tous ceux-là, c'est ces gens qui s'opposent à Dieu, ils se convainquent eux-mêmes de choses, mais leur réflexion est davantage idéologique que logique. OK? Encore une fois, pour des raisons que j'ai mentionnées un peu plus tôt. C'est beau tout ce tableau-là, mais la véritable question, c'est, et Dieu, dans tout cela, lui, il fait quoi? Il fait quoi face à cette terre tourmentée? Il fait quoi face à toutes ces injustices qui prennent place? Il fait quoi avec les êtres humains qui souffrent, qui sont mal en point? Et comme je dis souvent, de façon un peu simple, on est facile à blâmer Dieu, mais le problème ne vient pas d'en haut, le problème vient d'en bas. Le problème de l'humanité, c'est l'humanité. Mais la solution ne vient pas d'en bas, la solution vient d'en haut. Okay? Et pour qu'il y ait cette jonction entre la solution qui vient d'en haut et le besoin d'en bas, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut qu'il y ait une percée dans ce sens-là. Et voilà pourquoi je crois, et c'est le thème de ce message ce matin, que Dieu se révèle. Je vais tenter de vous l'expliquer dans quelques instants, mais juste avant, est-ce que je peux vous parler un petit peu de moi-même, juste quelques secondes? Quand je travaillais à ce message, j'ai été un peu forcé ou incité à réfléchir sur mon propre cheminement. J'ai connu le Seigneur, j'avais 20 ans, donc ça fait plusieurs années de cela maintenant. Et je sais que vous voulez savoir mon âge, c'est pas le but de l'illustration, là, c'est bon, OK? Je me souviens, vous savez, je suis né dans une bonne famille québécoise, des parents avec 4 garçons et tout ça. Je suis la 4e de 4 garçons. Et je ne dirais pas encore une fois. J'hésite parce que je ne veux pas donner de date, là, parce que je sais que vous allez vous mettre à compter, vous ne m'écouterez plus. Je pourrais un peu savoir, défricher un peu quel est mon âge. Une famille avec un arrière-plan catholique, sérieux, j'ai de bons souvenirs. Mes parents sont décédés, mais j'ai un bon souvenir de mes parents dans leur façon de vivre, leur façon de croire aussi. C'était quelque chose de sain, d'équilibré dans la maison. Et vous savez qu'à l'époque, ceux qui sont de ma génération savent que toute bonne famille québécoise catholique de l'époque avait dans la famille besoin d'avoir un prêtre et une religieuse. Hein? Toute bonne famille québécoise traditionnelle, ça prenait ça. Hein? C'est là, wow, attends, votre fils, il est wow. OK, votre fille, ah oui. Donc, effectivement, c'est arrivé chez nous. Mon deuxième frère avait commencé à faire ses études pour la prêtrise et tout ça, c'est ce qu'on appelle le grand séminaire à l'époque. Mais avec la Révolution tranquille et la fin des années 60 et la réaction de la société québécoise face à la religion, il n'a jamais terminé tout ça. Il n'a jamais fait ses vœux, comme on dit, mais il est devenu professeur de théologie à l'Université du Québec à l'époque. Ça, c'est pourquoi je vous explique ça? Parce que je suis né à cette famille-là, et cette famille était relativement bien jusqu'au moment où est arrivé le drame dans notre famille, c'est-à-dire le décès de mon père qui a bousculé un petit peu toute la famille. Moi, j'avais 8 ans à l'époque. Et après coup, dans les années subséquentes, ma mère a décidé de m'envoyer au pensionnat. Maintenant, on appelle ça un collège privé, ça fait plus... mais à l'époque, c'était un pensionnat, OK? Pas une prison, un pensionnat, OK? Et où j'étais là-bas dans un collège dirigé par des frères catholiques espagnols. Donc, pas besoin de vous dire qu'on marchait très, très, très serré, c'était très religieux. J'en garde pas de mauvais souvenirs. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que cela a préparé quelque chose. À la sortie du collège, dans les années d'adolescence, j'ai commencé à faire les 400 coups en réaction à plein de choses, les amis, vie de jeunesse, comme vous pouvez l'imaginer. Et tout cela a évolué dans le temps de façon très, très négative. En fait, je me souviens de discussions avec ma mère où je voulais ma liberté. Et quand je l'ai eue, mais elle ne m'a pas servi, parce que je l'ai utilisée pour bousiller ma vie au complet. Et le 14 février 1975, est arrivé une expérience assez douloureuse, assez malheureuse. Le 14 février, c'est mon anniversaire de naissance. Okay? Et dans notre groupe d'amis, on avait une tradition, c'était ce qu'on appelait la tournée des grands-ducs. C'est-à-dire que l'alcool coulait à flot, le fêté ne payait absolument rien. On faisait la tournée de toutes les bars, toutes les boîtes de nuit et tout ça. Et on avait tous hâte, hein, quand ça va être notre fête. Waouh, OK. Vous avez un peu l'illusion qu'on peut avoir quand on est jeune. Et on avait commencé la journée très, très tôt. Et il était rendu vers 10 heures le soir. Et vous savez, vous voyez un petit peu mon gabarit. Je suis pas le gars le plus intimidant, le plus. Je n'ai pas de tatou, je n'ai pas de je fais pas de culturisme et tout ça. Mais le problème que j'avais, c'est que j'étais un peu baveux. OK? Vous savez ce que ça veut dire? Je ne sais pas comment on peut. Je cherche toujours le mot en français qui peut dire un peu baveux, un peu provocateur et tout ça. Et j'étais déjà un peu bourré, comme disent nos amis français. Et je suis sorti d'un bar et j'ai provoqué quelqu'un, mais je suis tombé sur la mauvaise personne. Il y a des gens qu'il ne faut pas provoquer dans la vie. Et je l'ai appris à mes dépens et c'était le chef des motards criminalisés de ma ville. Et la mauvaise nouvelle, j'ai subi la raclée de ma vie. OK? La raclée de ma vie. J'ai jamais, depuis ce temps-là, vécu ce que j'ai vécu là. Le nez cassé, coup de pied, ce que vous imaginez, j'ai fini dans le fond d'une voiture. Là, dans le fond d'une voiture, vous savez, il y a des moments dans la vie où tu te retrouves face à des circonstances où tu ne te poses pas de questions sur est-ce que Dieu existe ou Dieu n'existe pas. OK? C'est comme dans un avion qui est en train d'aller crasher. C'est fou comment les croyances se réveillent tous. Tout le monde devient croyant dans des moments comme ça. Et dans le fond de la voiture, OK, ensanglanté, j'ai crié à Dieu, « Si tu existes, fais quelque chose, sors-moi d'ici. » En fait, même le « si tu existes », je ne suis pas trop convaincu, parce que j'ai toujours été convaincu que Dieu existait, mais là, fais quelque chose, je veux sortir d'ici, OK? Certains d'entre vous, vous avez vraiment un témoignage semblable, vous êtes retrouvés dans des circonstances, vous avez crié « à l'aide, à l'aide, à l'aide ». Et vous savez, dans ces moments-là, on ne négocie pas. On n'est pas en train de jouer au poker, on n'est pas en train de jouer aux échecs. Là. On sait, tu prends tout, je veux juste sortir d'ici, moi, je veux justement sortir. Mais le côté intéressant, et je ne raconte pas cette anecdote par hasard, ou je poursuis une idée, c'est que après avoir crié, bien sûr, tout s'est arrêté. Comme vous le voyez bien, je m'en suis sorti. Mais dans les jours qui ont suivi, il a commencé à se passer des phénomènes étranges dans ma vie. Partout où j'allais, j'entendais parler de Dieu. J'ouvre le journal, ça parle de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu fait dans le journal, surtout le journal de Montréal? Je zappe la télé, ça parle de Dieu. Okay? Je m'en vais dans des lieux sans Dieu, 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 Dieu. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un soir, j'arrive à la taverne. Vous savez, vous qui êtes Québécois aussi, je suis dans la dernière génération des tavernes réservées uniquement aux hommes. Okay? Et on se trouvait des amis là, on jouait au billard, on jouait aux cartes et tout ça. Et à un moment donné, un soir, je suis là et les gars se mettent à parler de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais eux, ils ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur de moi, là, OK? Et à un moment donné, ils me racontent une anecdote sur un de nos amis qu'on n'avait pas vu depuis un bon moment, qui était en train d'une histoire de religion. Et là, on se met à blaguer, à le ridiculiser, à se moquer. Lui, il n'était pas là, mais Mais moi, la réaction que j'ai eue, ça a été, il faut que j'aille lui parler. Il y a quelque chose qui m'a interpellé ce soir-là. Le soir même, je suis allé jusque chez lui. Je le connaissais bien. Je me suis assis avec lui. Et le fruit était mûr. Okay? Il m'a juste témoigné de la foi en Jésus-Christ, puis je me suis converti sur le champ. Wow. Voyez-vous? Pourquoi je vous raconte ça? Parce que Dieu a choisi de se révéler aux personnes. Il y a des moments dans la vie où, en fait, cette histoire personnelle est une démonstration d'un Dieu qui essaie de percer, qui essaie de faire quelque chose. Et maintenant, ne sous-estimez pas cette activité de Dieu dans la vie des gens qui sont autour de vous. Parfois, on est un peu désespéré par certains, soit nos enfants, conjoints, frères, sœurs qui ne se convertissent pas. Mais il y a un Dieu qui est à la recherche des êtres humains. Dieu a choisi de se révéler au genre humain. Regardez bien ce que ce texte dit dans l'Épître aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Donc Dieu a parlé, Dieu s'est exprimé, Dieu a sollicité, Dieu a... Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils, il a fait de lui l'héritier de toutes choses et aussi par lui qu'il a créé l'univers. Dieu a choisi, c'est son choix, on va le voir dans quelques instants, a choisi de se révéler au genre humain. Le mot révéler est intéressant. Dans sa racine, ça signifie dévoiler, lever le voile. Ça signifie faire connaître ce qui est inconnu et rendre public ce qui est secret. C'est un peu comme je vous disais, je vais vous dire un secret que personne ne sait. Ah ouais, là, je vais dévoiler quelque chose, je vais annoncer quelque chose. Et littéralement, c'est ça le sens de la révélation, c'est que Dieu choisit de rendre public quelque chose, il choisit de manifester quelque chose qui est de l'ordre de sa personne à lui. La révélation ne signifie pas que l'homme trouve Dieu, mais Dieu trouve l'homme. Dieu partage ses secrets avec nous. Dieu nous montrant lui-même, se montrant lui-même à nous plutôt. Dans la révélation, Dieu est l'agent aussi bien que l'objet. Ça, c'est un théologien qui a dit. Que veut dire agent autant qu'objet? En fait, autrement dit, c'est Dieu qui prend l'initiative de se présenter lui comme personne à chacun de nous. Et c'est ce qu'il désire faire pour l'humanité entière. Ça, c'est le désir de Dieu. Comme on va voir dans quelques instants, c'est l'initiative de Dieu. Donc, quittez cette image. Dieu ne s'annonce pas avec une pub dans le journal. Vous ne verrez pas Dieu apparaître à la télé dans une « Venez me voir, je veux vous enseigner quelque chose ». C'est quelque chose, on va le voir dans quelques instants, qui est de l'ordre de l'expérience personnelle. Mais vous gardez à l'esprit cette notion que Dieu, c'est son désir de le faire. C'est pas son intérêt dans le sens qu'il cherche un intérêt personnel, mais c'est son initiative personnelle. Regardez bien ce que C.S. Lewis a dit un jour. « Quand vous venez à connaître Dieu, l'initiative repose de son côté. » S'il ne se montre pas, rien de ce que vous pouvez faire ne vous permettra de le retrouver ou de le trouver. Et en effet, il se montre beaucoup plus de lui-même à certaines personnes, non pas parce qu'il a des favoris, mais parce qu'il est impossible de se montrer à un homme dont l'esprit et le caractère sont dans une mauvaise condition. Donc, notre participation dans tout cela, c'est simplement dans notre ouverture. Vous savez, c'est comme le soleil. Ne blâmez pas le soleil de ne pas éclairer votre chambre, votre pièce, si vos vitres sont sales et opaques. Le problème, ce n'est pas le soleil, c'est de nettoyer vos vitres. Donc, le problème, encore une fois, c'est chez beaucoup de gens, cette incapacité à s'ouvrir à la possibilité que Dieu leur parle parce qu'ils ont, encore une fois, un a priori dans leur tête, ils ont une conviction dans leur tête, ils ont souvent beaucoup de colère contre Dieu sans qu'ils puissent trouver quoi que ce soit en concernant Dieu. Donc, Dieu décide de se révéler, Dieu veut se révéler et il veut se révéler à chacun de nous. Il veut continuer à se révéler constamment à chacun de nous, mais aussi à ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est son initiative à lui. C'est lui qui décide de le faire. Et vous ne pourrez pas savoir plus que ce que lui est prêt à vous dire. C'est la même chose que pour les êtres humains. Suivez-moi bien. Connaître mon voisin est plus complexe que connaître sa maison. Je peux faire le tour de sa maison, dire « Ah, j'ai vu la maison », mais connaître mon voisin, c'est plus complexe. Plus l'objet de notre étude est complexe, plus l'apprentissage est complexe. Nous avons des limites, vous et moi, physiques, intellectuelles, spirituelles. Personne ne peut arriver à connaître Dieu dans sa totalité. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui dit « Moi, je connais tout Dieu », prenez un pas à l'écart, puis protégez-moi un tout petit peu, là, c'est un peu dangereux. Dans un autre ordre d'idée, c'est plus facile de connaître un objet inanimé qu'un objet vivant. C'est plus facile de connaître certains objets vivants comme votre chien, votre chat, votre perruche, votre perroquet, mais c'est plus compliqué de connaître un être humain. Vous êtes d'accord avec moi? Votre chien, votre perruche, même si elle agazouille un tout petit peu, ne peut pas parler d'elle-même. Vous dites, voici ce que je suis, voici ce que je pense, voici ce que je veux. Mais les êtres humains, c'est différent parce qu'eux peuvent garder des secrets. Moi, je dis souvent, les êtres humains sont les seuls êtres de la création dotés du langage, sont les seuls capables de mentir. Votre perruche ne ment pas, votre chien, votre chat ne mentent pas. Ça, c'est humain. On garde des secrets, on se contient, on se retient. Et il y a évidemment aussi des degrés de connaissance d'une personne. Et encore une fois, la connaissance que vous avez de quelqu'un, que ce soit votre voisin, que ce soit des amis, provient du fait qu'eux ont permis, vous ont permis d'avoir accès à ce qu'ils voulaient vous faire découvrir. Ce qui est vrai pour les humains est aussi vrai pour Dieu. Nous n'aurions pas accès à Dieu, à une compréhension de qui il est, à moins que lui décide de se révéler et de se faire connaître. Ce que vous savez de Denis Morissette, vous le savez parce que je me suis révélé à vous. Sinon, vous ne le sauriez pas. Vous allez beau m'observer, déduire, imaginer, créer des hypothèses, vous ne pouvez pas le savoir. C'est la même chose pour Dieu. Dieu a choisi de se révéler à nous. Et c'est intéressant de savoir cela parce que ça nous permet de nous garder humbles un tout petit peu. C'est pas moi, j'ai découvert Dieu en vous positionnant de façon un peu condescendante envers ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est une grâce que Dieu vous a faite de se révéler à vous. Il veut le faire, bien sûr, à tous les êtres humains. Maintenant, ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que Dieu, ça peut demeurer un concept un petit peu flou. Regardez-moi ici un instant. Je sais que vous êtes, pour la grande majorité d'entre vous, des chrétiens qui lisaient la Bible et tout ça. Avez-vous déjà remarqué ou ressenti que le Dieu de l'Ancien Testament semble différent du Dieu du Nouveau Testament? Trouvez pas, entre nous, là, que celui de l'Ancien Testament, il n'a pas un caractère facile. D'accord avec moi? Je pense qu'il devrait aller en thérapie. Soigner son côté caractériel, il y a Georges-Marie qui est devant moi. Et la colère de l'Éternel, on a l'impression qu'il se fâche et tout ça. Il y a plein de textes que vous avez vus là et tout ça. Et tout d'un coup, dans le Nouveau Testament, il s'adoucit. Vous avez remarqué cela? Moi, j'ai une théorie. Je pense qu'entre les deux, il s'est converti. Bien sûr que non. Pourquoi je raconte ça? Parce que c'est de l'ordre de la perception des choses. Donc, il y a plein de textes dans l'Ancien Testament qui parlent de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu, mais on ne les voit pas parce qu'on est juste interpellé par les fois où ça nous intimide et ça nous choque à la limite. Est-ce que vous avez remarqué dans le Nouveau Testament que Jésus semble plus facile, plus agréable de compagnie que son Père? Vous avez remarqué ça? Pas facile, le Père, là, OK? Mais Jésus, OK? Un jour, j'étais ici à Nouvelle-Vie, à mon bureau, il y a une dame qui vient me voir et elle me dit, « Pasteur Denis, je suis un peu confuse. Je suis torturé, je suis tourmenté. Dieu, il est tellement difficile à comprendre et tout cela. » Là, devant moi, puis elle me dit tout bonnement, elle dit, « Vous savez quoi? » Elle dit, « Moi, j'aimerais ça parfois que Dieu prenne une forme humaine pour que je puisse le comprendre, le voir et saisir les choses. » Et là, je réponds à la dame, « Mais madame, ça a déjà été fait. »« Mais comment ça a déjà été fait? » Je réponds, « Mais c'est Jésus. » Et là, la jonction s'est faite dans sa pensée. « Wow! J'avais jamais vu ça comme ça. » Et laissez-moi vous dire que Jésus est aussi la démonstration ou la réalité que Dieu savait, que nous aurons parfois des difficultés à le comprendre. Il est venu aussi se présenter à nous de façon accessible et vivante. Au-delà du salut, au-delà de tout l'ensemble de son ministère, il y a cette représentation de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Maintenant, regardez bien. La plus grande révélation de Dieu nous a été donnée par Jésus. Dans les derniers temps, Dieu s'est révélé par son Fils. Regardez ce que Jésus a dit lui-même. « Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » Et retenez le mot « connaître », on va y revenir dans quelques instants. « Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le... » Wow! Ah oui? Nous avons eu accès à cela. Parce que le Fils nous donnait accès à cette révélation. Et Jésus est venu sur terre pour nous présenter Dieu. Et c'était tellement une image différente de la culture religieuse de l'époque que, bien évidemment, les pharisiens, les scribes, les sadducéens ont tous réagi à cette représentation de Dieu. Voyez-vous? Et c'est étonnant, et ça, c'est le drame de la religion. Pendant qu'ils adoraient Dieu dans le temple, simultanément, ils méprisaient son Fils et le crucifiaient. Donc, ça donne un peu le paradoxe un petit peu dans tout ça. Donc, Dieu savait que les hommes auraient de la difficulté à le comprendre. Voilà une autre raison pourquoi Jésus est venu sur terre. Il nous donne accès à quelque chose qui va nous permettre de rétablir de façon plus idéale cette relation avec Dieu. Mais non seulement on a accès à cette représentation, mais aussi des bénéfices rattachés à cette révélation en tant que telle. Jésus a dit, « Or, la vie éternelle, la plénitude de la vie, pas simplement la vie après la vie, mais la vie dans la vie, c'est qu'ils te connaissent, retenez le mot « connaître », qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et même là, Jésus ne se positionne pas en premier. Ce n'est pas de me connaître, c'est de te connaître toi et celui que tu as envoyé, même dans ce contexte. Et vous savez, ce texte parenthèse dans Jean 17, c'est les textes avant, bien sûr, son jugement. Il annonce à ses disciples qu'il va mourir sur la croix et tout ça. C'est un texte très, très intime dans Jean chapitre 17. Et là, dans ce temps de prière avec Dieu, il dit, David, c'est qu'il te connaisse, Seigneur, c'est qu'il te connaisse, toi, le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pourquoi avons-nous été faits pour connaître Dieu? Quel objectif devrions-nous avoir dans la vie? Connaître Dieu. Quelle est la vie que Jésus donne? Connaître Dieu. Quelle est la meilleure chose dans la vie? Connaître Dieu. Qu'est-ce qui, chez les humains, donne le plus de plaisir à Dieu? Le connaître. Donc, Dieu, non seulement se révèle, mais il ne se révèle pas juste en disant « Coucou, j'existe ». Il se révèle pour qu'on rentre en relation avec lui et qu'on apprenne à le connaître littéralement. Et ça nous amène donc de la révélation à la connaissance de Dieu. Connaître, apprendre à connaître, avoir la connaissance de comprendre avec clarté, percevoir adéquatement, être familier avec. C'est ça la connaissance. Connaître quelqu'un est plus que d'avoir une série d'informations sur la personne. C'est être intime avec cette personne. C'est, je peux vous dire ce matin, je connais le premier ministre du Canada, Justin. Je connais le président de la France, Emmanuel Macron. Je le connais. Et dans ce moment, vous êtes, vous l'avez rencontré? Non. Mais je l'ai déjà vu. Je l'ai vu à la télé. Je le connais. Vous voyez que ma connaissance de lui, elle est limitée. Elle est limitée à quoi? Au personnage public, à ce que les médias disent de ces personnages-là. Et encore une fois, vous savez comment les médias fonctionnent, ils présentent un aspect parce que toutes les images dans la vie moderne sont travaillées dans ce sens-là. Okay? Mais pour avoir accès à la réalité de la personne, de passer du côté public au côté privé, il faut que j'aie un accès privilégié. Et à ce moment-là, je vais avoir accès à toute une autre information qui parfois va peut-être se rejoindre, mais parfois qui va être souvent différente. Quand je donne des conférences sur le couple, à chaque fois, je fais l'exercice. Il y a toujours un jeune couple en fréquentation dans la salle et tout ça. Et des fois, je les interpelle, je leur dis, dis-moi, là, toi, là, est-ce que tu sais qui tu vas marier? Ben, ils vont dire, oui, je le sais, on se marie dans un mois, là, je sais qui je vais marier. Et je pose la question à la salle, est-ce qu'ils savent qui ils vont marier? Et tout le monde dit, non, ils ne le savent pas. OK? Ils le savent, mais ils ne le savent pas. C'est-à-dire que le registre de connaissances dans une fréquentation, dans les premiers stades d'une relation, c'est pas la même chose que de vivre avec quelqu'un 7 jours, semaine, 24 heures par jour. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà pourquoi, souvent dans le mariage, on est déçu dans les premiers, après la période d'exaltation, là, on est déçu. J'avais pas vu ça. Mais ça se fait, j'avais pas vu ça. T'as pas vu ça parce que c'était pas accessible à ta vue. Maintenant, dans l'approfondissement de la relation, il y a plein de choses auxquelles tu vas avoir accès. Et c'est un phénomène comme ça. C'est pas nécessairement que les gens se cachent, autant que l'information n'est pas accessible à cause du type de relation qu'on a avec la personne. C'est comme vous suivez dans tout ça. Donc, c'est la même chose en ce qui concerne Dieu. Je dois entrer dans une relation beaucoup plus approfondie. Parce que connaître, fondamentalement, dans ce texte, dans d'autres textes du Nouveau Testament, c'est un terme relationnel. C'est pas juste une information usuelle ou temporaire. Ah, j'ai connu Dieu, je l'ai rencontré en 1900. Okay. Non, il faut que ce soit plus que cela. C'est une relation qui continue. Voilà pourquoi je dis, il faut naître de nouveau, bien évidemment, naître, se convertir, naître, connaître, reconnaître, re-reconnaître, re-re-re-re-re-re-reconnaître. En fait, il faut toujours être dans une optique de relation pour que notre vision des choses commence à évoluer. Vous savez, je vais vous dire quelque chose ce matin, ce midi. Le Dieu que je sers maintenant est bien différent de celui que j'ai connu il y a 43 ans. C'est fou comment il a changé. Il a changé? Qui a changé? C'est moi qui ai changé. J'ai évolué, j'ai progressé, j'ai compris des choses. La Bible dit que quand on est un enfant, on pense comme un enfant, mais quand on est mis d'adulte, on est mis de côté. Tout ça, c'est peaufiné avec le temps. Bien sûr qu'il n'a pas changé. C'est l'approfondissement de ma relation qui a changé, l'accession à quelque chose de plus qui a changé. Mais encore une fois, Dieu se révèle, Dieu veut se faire connaître, et Dieu veut qu'on apprenne à le connaître encore davantage au travers de cette relation qui continue littéralement. Mais il y a encore plus. Il y a la plus grande révélation qui nous a été donnée de Jésus, l'a été de Dieu par Jésus, l'a été par Jean, l'apôtre Jean, qui nous révèle que Dieu est amour. Dites, wow! même si vous ne savez pas pourquoi. Ça m'encourage. L'apôtre Jean a dit, « Et nous avons connu l'amour de Dieu, ou l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » Nous avons connu l'amour connu. Pas entendu parler, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Dieu est amour. Le texte ne dit pas « Dieu aime ». Le texte ne dit pas « Dieu a de l'amour », bien que Dieu aime et que Dieu a de l'amour. Le texte dit « Dieu est amour ». Donc, c'est un verbe, le verbe « être », qui est un verbe identitaire. Ça qualifie ce qu'il est dans sa vie, pas ce qu'il a, ce qu'il possède, ce qu'il est profondément. Et là, les gens ont besoin de comprendre ça. Et ça vous donne une idée du, encore une fois, du niveau de désinformation qu'il y a dans tout ce qui nous entoure, où les gens, malgré la révélation à répétition d'un Dieu d'amour, de Jésus qui a donné sa vie pour les gens ont la difficulté à croire que Dieu est amour. Et beaucoup d'entre vous, vous avez même encore, à l'heure actuelle, bien que vous le connaissiez, de la difficulté à croire que Dieu vous aime encore, ou que Dieu vous aime. Mais cet amour de Dieu irradie de sa personne parce que c'est ce qu'il est. Dieu n'est pas colère. Dieu est amour. C'est sa qualité primaire. Et peut-être, encore une fois, c'est un peu difficile à saisir, mais pourquoi Jean a découvert cela? Comment Jean finit par... C'est une révélation qu'il a eue. Il était assis dans sa maison, puis d'un coup, il a entendu une voix qui disait, « Dis aux gens que Dieu est amour. » Comment Jean fait pour le savoir? Il a passé 3 ans et demi avec Jésus. Et quand tu passes du temps avec quelqu'un, tu découvres ce qu'elle est réellement. OK? Ce qu'elle est réellement. Moi, je voyage avec ma femme. Rien de tel que les voyages, les aéroports, les pertes de bagages pour apprendre à connaître quelqu'un. Donc, vous êtes d'accord avec vous qu'à écouter la télé à la maison ou à jouer avec nos téléphones, nos iPads, on n'apprend pas à connaître quelqu'un. Maintenant, c'est intéressant parce que c'est dans l'expérience que tout ça s'approfondit. Et croyez-moi bien, ça se passe vraiment bien. On voyage très bien ensemble. La réalité, c'est qu'on est confronté à une série d'informations dans des moments comme ça qu'on n'aurait pas dans d'autres contextes. Donc, Jean a connu Jésus, a passé du temps avec Jésus. Il y a plein de textes qui confirment. Lui-même se définissait comme l'apôtre que Jésus aimait, le disciple que Jésus aimait. Il était couché sous le sein de Jésus à un moment donné. Alors, il y a plein d'éléments comme ça. Et à un point tel qu'il est arrivé à la conclusion et à cette affirmation que Dieu est amour. Voici ce qu'il est. Et tout cela, de découvrir cette réalité, ça change quelque chose dans notre relation avec lui. Je n'ai plus à avoir peur de lui. Pourquoi? Mais parce que Dieu est amour. L'amour parfait bannit la peur. La Bible le dit. Quand tu es avec quelqu'un qui t'aime, tu es en sécurité avec cette personne. Si la personne t'aime vraiment, tu es en sécurité avec cette personne. Donc, je suis en sécurité avec Dieu, à dépit du fait que la plupart des gens ont des images ou des représentations d'un Dieu qui est menaçant et tout ça. Si vous savez, on est parfois influencé même par la bonne vieille mythologie romaine et grecque. Est-ce que vous me suivez? Dans toutes ces dimensions de représentation de Dieu. Vous savez, quand j'étais petit à la maison, je descendais souvent au sous-sol. On avait ce qu'on appelle une vieille cave. Une vieille cave, mais ceux qui sont français, ce n'est pas une cave à vin. Là. Une vieille cave, c'est le sous-sol non fini des vieilles maisons de l'époque, des maisons d'époque. Puis on avait un vieux coffre. Et je me souviens, j'ouvrais le coffre, ça sent un peu comme un coffre au trésor, mais il n'y avait pas de trésor dans tout ça. Puis il y avait une espèce de méga gros catéchisme. Et ça m'a impressionné, écoutez, ça date de plusieurs décennies de ça, j'avais 5-6 ans. Là. Et il y avait un grand catéchisme, je l'ouvrais, puis en plein centre, il y avait une immense fresque. Écoutez, je m'en souviens encore, il y avait l'horloge de l'éternité. L'horloge de l'éternité, il n'y avait pas d'aiguille. Puis en dessous, c'était marqué « toujours, jamais ». Toujours, jamais. Ça, c'est l'éternité. Wow! Et il y avait Dieu au ciel, le Père, Dieu le Père, au ciel, dont sa barbe se fusionnait avec les nuages et tout ça. Et c'était un vieux vieillard. C'était vieux. Il était vieux, vieux. Et il y avait des éclairs dans les mains, OK, qui est une fausse représentation de Dieu. Ça ressemble plus à Zeus qu'à quoi que ce soit d'autre chose. Et il y avait, après coup, le mont de Golgotha avec les condamnés, les trois croix et tout ça. Et il y avait quoi? Il y avait l'humanité qui était tourmentée. Puis il y avait en dessous de la terre l'enfer avec des démons qui étaient tout nus puis qui avaient des flammes de feu pour cacher des endroits où on ne doit pas voir. OK? Pourquoi je raconte ça? Parce que tout cela finit par meubler notre perception des choses à notre insu souvent. Bien sûr qu'il faut faire un travail à travers tout cela. Mais dans tout cela, on ne voit pas l'amour de Dieu. On voit, et encore une fois, la révélation s'est peaufinée au travers des siècles. Les gens ont commencé à comprendre davantage ce que Dieu était réellement, parce que souvent, notre culture nous empêche de voir un peu comme un prisme les choses de façon réelle. Mais la plus grande révélation, on doit s'en rappeler constamment. Et ce que je vous dis, vous savez, il y a des endroits où ça ne passe pas, cette notion-là. Ils professent Dieu, ils adorent Dieu le dimanche matin, mais la notion d'un Dieu d'amour, là, c'est comme dilué. Ils ne veulent pas l'entendre. « Oui, mais la colère de Dieu, il y a le jugement. » Oui, mais ça, c'est secondaire. L'élément primaire, c'est sa personne à lui, ce qu'il est dans son identité propre, c'est-à-dire Dieu d'amour. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ce matin? L'essence du christianisme. Un jour, il y a quelqu'un qui s'est approché de Jésus, il a posé la question suivante. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui m'interpelle, c'est la dernière phrase. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la loi. Donc, si vous prenez votre Bible entière, vous savez, est-ce que vous avez déjà l'impression que parfois c'est difficile à mettre tout mettre en pratique ce qu'il y a dans la Bible? Il y a tellement de préceptes, de principes, des proverbes, des commandements. Prenez votre Bible entière. Ramenez-la à la version la plus simple en deux phrases. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. De cela dépend toute la loi et tous les prophètes. En fait, on pourrait dire que cela résume toute la loi et tous les prophètes. Voici ce qu'est le christianisme. Si on avait à définir le christianisme comme une religion, on pourrait simplement la simplifier en disant, avant toute chose, le christianisme, c'est une religion. Le christianisme, c'est une religion d'amour. Regardez ce que Martin Luther King a dit un jour. L'amour est fondamental pour la survie même de l'humanité. Je suis convaincu que l'amour est le seul absolu en fin de compte. L'amour est le bien suprême. Celui qui aime a en quelque sorte découvert le sens de la réalité ultime. Celui qui est ne connaît pas Dieu, peu importe ce qu'il dit. Celui qui est n'a aucune connaissance de Dieu. L'amour est le principe suprême unifiant de la vie. Dites, waouh! Dans le fond, je le savais dans mon cœur, mais je trouve que ça faisait un peu trop romantique, l'amour. Mais l'amour, c'est le besoin le plus fondamental de l'être humain. Et c'est souvent par manque d'amour que les êtres humains font ce qu'ils font, jusqu'à tuer. Il y a un historien français dont j'ai lu l'ouvrage il y a quelques années de cela, qui s'appelle Paul Venn. C'est un historien des religions qu'on appelle. Qui écrit un livre qui s'appelle « Quand notre monde est devenu chrétien ». En fait, ce que j'aime quand je suis en France, ce que j'aime des Français, c'est qu'ils ont ce côté intellectuel dans lequel ils posent beaucoup, beaucoup de questions. Parfois, c'est très, 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 très long. Et lui, c'est un historien. C'est un historien aussi de l'Empire romain. Il s'est posé la question suivante. Comment ça se fait que l'Empire romain a basculé sous Constantin dans le christianisme? L'Empire au complet. Okay? Bon, la première version, peut-être vous avez vu un petit peu l'histoire de l'Église, c'est Constantin est interpellé, il a vu un signe dans le ciel, une croix, ça disait « par ce signe tu vaincras », il se serait converti, puis il a remporté une bataille, ce qui a ajouté à cette chose. La plupart des historiens arrivent à la conclusion qu'il s'est probablement, véritablement, lui-même, personnellement, converti au christianisme. Mais ce que la plupart des historiens ne s'entendent pas, c'est ce qu'il a obligé l'Empire romain en entier à devenir chrétien. Et Paul Venn dit que c'était impossible. Il ne pouvait pas, en passant une loi, dire « Vous allez tous devenir chrétiens maintenant. » Il a fallu qu'il se passe quelque chose. Donc, il s'est penché sur cette question. Comment ça s'est passé tout cela? Puis, il a découvert plusieurs facteurs. Vous pouvez lire le livre si vous le désirez. Mais surtout, il a découvert trois choses importantes. Il a découvert que cette religion-là, cette nouvelle religion, qui à l'époque portait plus le sens d'une secte chrétienne et tout ça, en comparant avec l'Empire romain et toutes les religions païennes de l'époque, il a découvert que c'était une religion d'amour. Les gens étaient interpellés par ce groupe de gens qui professaient l'amour, qui aimaient leur prochain. En fait, l'actualisation du bon vieux commandement de Dieu, mais de façon réelle et concrète et pratique dans la vie de tous les jours. En second lieu, il a découvert que c'était la personne de Jésus. Deuxième facteur, c'est ce personnage, ce fondateur, entre guillemets, du christianisme, Jésus-Christ, était tellement différent de tous les autres. La plupart des leaders religieux poussent les gens à faire des sacrifices pour eux ou à donner leur vie pour le leader. Puis Jésus a fait l'inverse. Il a juste fait le processus inverse. Au même titre que le christianisme, vis-à-vis de la révélation de Dieu, c'est le processus inverse. Ce n'est pas les êtres humains qui sont à la recherche de Dieu par toutes sortes d'incantations, de sacrifices ou de mesures d'œuvres ou quoi que ce soit. C'est Dieu qui est à la recherche des êtres humains. C'est le sens inverse des choses. Et ça, c'est interpellé. Le troisième facteur qu'il a découvert, c'est l'invention de l'Église. Et regardez bien ce qu'il a dit. C'est par cet amour, par le rayonnement de son Seigneur et par une conception sublime du monde et de l'homme que la nouvelle religion s'est imposée à l'Empire. C'est comme si elle s'est imposée de façon naturelle, où les gens ont commencé à se convertir. Ils se sont convertis, pourquoi? Parce qu'ils ont découvert la force et la beauté et la puissance de rattacher cet amour-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand j'entends cela, moi je me dis, ben, peut-être qu'on a besoin de retourner un petit peu à ces sources-là. Au lieu d'imposer notre foi, au lieu de tenter de convaincre des gens à plus forte mesure, peu importe ce qu'on va tenter comme stratégie, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait irradier de nous, qui ressemble à l'amour de Dieu, qui fait en sorte que les gens seraient attirés? Cette force d'attraction que constitue l'amour? Mais cela n'est possible que dans la mesure où nous connaissons Dieu. Où nous ne le connaissons pas dans le sens, encore une fois, ici, de conversion. Oui, pour la conversion, pour le point de départ, mais pour cette connaissance continue, cet approfondissement de cette relation où cet amour de Dieu devient quelque chose de beaucoup plus percutant, de beaucoup plus présent. Je vous parle ce matin. Au moment où je vous parle, j'ai des flashs dans ma tête de certains voyages que j'ai faits où je dois convaincre des églises de l'importance de l'amour. Ils ne comprennent pas. Ils connaissent les règles, ils connaissent les lois, ils connaissent les principes, ils connaissent les règles de leur église, ce qu'il faut faire, l'habillement, les mœurs et tout ça. Mais on va passer aux côtés de l'amour, qui est l'élément central de tout cela. Et parfois, quand je fais ça, sans faire un jugement, je dis, est-ce qu'ils connaissent réellement Dieu? Ou sont aux prises en compte avec une religion qui se sont concoctées, qui porte le nom de christianisme, mais qui s'éloigne littéralement de l'essence des choses. Connaître Dieu, premièrement, c'est une affaire essentielle. Ça doit faire partie de notre vie. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. 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 De savoir que je suis l'Éternel. Et regardez bien la révélation. Je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit Dieu. Dites, waouh! Ça, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Ah, vous n'avez pas vu sous cet angle-là. Un Dieu de bonté, un Dieu qui cherche la justice, un Dieu qui est malheureux de voir ce qui se passe parfois sur terre. Donc, c'est une affaire essentielle. C'est là, dans cette connaissance de Dieu, qu'on va trouver le sens de notre vie, la direction de notre vie, l'essence de ce que nous sommes quand nous sommes en relation avec lui. Mais connaître Dieu, ce n'est pas simplement une affaire essentielle, ça demeure une affaire essentielle en premier lieu, mais c'est aussi avant tout une question spirituelle. L'apôtre Paul a dit, « Or nous avons reçu non pas l'esprit de ce monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Mais l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de le comprendre car seul l'esprit de Dieu permet d'en juger. » C'est quelque chose d'ordre spirituel. Ça veut dire qu'ici, si vous êtes ici à l'Église Nouvelle Vie pour la première fois et que vous êtes ou agnostique ou athée commun ou athée convaincu, tout ça, je ne pourrais pas vous faire la démonstration que Dieu existe. Je ne peux pas le faire apparaître ici, je ne peux pas le reproduire dans le laboratoire, ça n'oublie pas aux règles scientifiques, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est de l'ordre de l'expérience spirituelle. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est vrai. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu et je sais que c'est vrai. Mais je ne peux pas le prouver. Pourquoi je vous parle ainsi ce matin? Pour que certains d'entre vous, vous arrêtez votre acharnement à convaincre les gens simplement à partir d'arguments intellectuels. Il y a une limite à tout cela. Pourquoi il y a une limite? Parce que c'est quelque chose de spirituel. C'est comme l'amour. Essayons de prouver à quelqu'un pourquoi tu l'aimes. Voici les 25 raisons pourquoi j'aime ma femme. Ça fait un peu... 25 raisons pourquoi j'ai choisi cette voiture. Ça fait un peu... D'accord? Ça dépasse tout ça. Je l'aime parce que je l'aime, parce que je suis bien, parce que ça, quelque part, c'est spirituel. Vous me suivez? Expliquer à quelqu'un ce qu'est la grâce, ça ne se fait pas en mots. Il faut le vivre pour comprendre ce qu'est la grâce. Donc, il y a une limite à notre capacité d'exprimer les choses aux gens. Et là, je vous dis ça pour vous rassurer en disant, écoutez, ce n'est pas que vous êtes meilleur que les autres, c'est simplement que vous avez un registre de compréhension qui est différent à cause de cette révélation que Dieu vous a donnée qui est d'origine spirituelle. Êtes-vous toujours avec moi? Il y a un troisième élément qui est intéressant. C'est qu'avant toute chose, c'est une expérience qui est personnelle. On dit souvent, Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. À chacun de vivre quelque chose. Et le texte qui va apparaître sur la diapo, C'est un de mes textes préférés. C'est un texte qui m'a touché il y a quelques années de cela. Encore une fois, qui est écrit par Jean, le disciple de l'amour. Et il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, la plénitude de la vie, Zoé, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous, en notre communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Vous avez remarqué dans le texte ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché. Cela fait appel à quoi chez les êtres humains? Des sens. Il y a 5 sens chez les êtres humains. Ici, il y a 3 sens de mentionner. Ça veut dire, et comment l'être humain expérimente-t-il la vie? Il expérimente par ses sens. On se voit, on se parle, on se touche. C'est comme ça qu'on est en contact avec cet univers autour de nous. Sinon, on serait dans un enfermement, dans une espèce de tombeau de béton armé où on n'entend rien, on ne voit rien, on ne goûte à rien, on n'a accès à rien, mais on ne serait pas vivant. Mais on est vivant, OK? Et on est vivant parce qu'on ressent des choses, parce qu'on voit des choses, parce qu'on peut s'émerveiller devant un paysage, un coucher de soleil, on peut... C'est ça la vie. Alors, l'expérience des apôtres, des premiers disciples, en fait, ce qu'ils vivaient avec Dieu, c'était de l'ordre de l'expérience. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, entendre, voir, toucher. Voyez-vous comment c'est concret? C'est pas, j'ai pas une hallucination auditive. J'ai pas une hallucination visuelle. C'est rare qu'on a des hallucinations au niveau du toucher. J'ai touché, c'était concret, c'était vrai, c'était concret. C'est de l'ordre de l'expérience personnelle. Et frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce matin que lorsque vous vivez le christianisme de cet ordre-là, de l'ordre de l'expérimentation, de l'expérience-là, parce que tout, vous savez, vous pouvez passer une vie chrétienne entière à être théorique sur des concepts, mais tout d'un coup, tout ça peut devenir pratique. Moi, je dis souvent à la blague, le christianisme, c'est super sur papier, mais ça ne marche pas, à moins que ça soit mis en pratique. Et c'est là que tu vois que les choses peuvent s'actualiser, se manifester. Et cela, c'est de l'ordre de l'expérience personnelle. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun de nous. Et c'est ce que les disciples ont connu à cette époque. Et ce qui fait que c'était la force de leur témoignage parce qu'ils parlaient de quelque chose qu'ils avaient vécu. Or, le défi que nous avons, ce n'est pas simplement d'avoir vécu ça une seule fois dans notre vie à l'origine, mais de le vivre régulièrement, constamment, dans cette connaissance qu'est de Dieu. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Regardez bien, en conclusion, ce que Saint-Augustin, un des pères de l'Église, a dit un jour. Tomber amoureux de Dieu est la plus grande romance. Le chercher, la plus belle aventure. Le trouver, la plus grande réalisation humaine. Moi, je pourrais dire un jour, à la fin de ma vie, qu'un jour, j'ai rencontré Dieu. Il m'a trouvé, plus que je l'ai trouvé. Il a changé ma vie. En 1975, ce fameux soir-là, lorsque j'ai eu ma vie et mon corps un peu bousculé, ça m'a amené sur un chemin de vie, un changement complet, une métamorphose, non seulement de ma personne, mais de ma vie entière. Et c'est ce que Dieu désire. Et si vous êtes ici ce matin pour la première fois, cette parole s'adresse peut-être à vous. Peut-être qu'on a tous nos parcours différents, on a tous des chemins différents sur cette terre, on a tous des expériences différentes. Mais Dieu que l'on sait, c'est un Dieu personnel qui s'incarne dans mon expérience de ma vie et qui me parle de façon très personnelle dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut dire amen ce matin?